Redécouvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Première série, Les carnets du lac. Troisième épisode. Troisième carnet. Février 1994. Mon cher lac. C'est la saison des glaces. Pendant de longues semaines, nous avons cru que l'ère glaciaire était revenue intacte de notre préhistoire. Les thermomètres se sont vidés de leur mercure. Nous n'avions plus assez de sang dans nos veines. Ça nous a beaucoup fatigués. On dirait que nous savons moins bien comment fabriquer de la chaleur. Est-il possible qu'un tel secret se perde? La température a rejoint notre difficulté à vivre la fin de ce siècle épuisant. Le froid est peut-être simplement sorti de nous. J'ai eu peur qu'il te prenne toute ton eau. Je te voyais devenir un glacier avec tes milliers de poissons figés dedans, encore en pleine course entre deux algues qui n'ondulent plus. Ces dernières années, nous avons trop vu de dinosaures à la télévision. Mais le danger est passé. Le mercure est revenu dans les thermomètres. Il y est plus à sa place que dans les belugas et les caribous. Tu es dans ta nuit noire depuis 3 mois. Je suis séparée de toi par quelques mètres de glace. Je n'ai pas ce qu'il faut pour t'entendre. Est-ce qu'un lac peut dormir? Est-ce que tu rêves? Je ne sais même pas si tu me sens quand je marche sur toi. Sans ciel, sans soleil, sans vent et sans reflet, tes eaux doivent avoir pris la couleur de l'encre. Ce lieu où les rêves transpirent. J'aimais ta transparence. Je crains ton opacité. Tu es tout entier dans ton élément, aquarium à la paroi épaisse qui ne laisse plus entrer la lumière. Il y a aussi des moments dans la vie des humains où ils ne laissent pas entrer la lumière, en plein été parfois. Nous avons la chair sensible des grands brûlés sous la peau calleuse des survivants. C'est une force. Comment croire le contraire? Tu sens bon la solitude. En vieillissant, je me rapproche des êtres qui respirent la solitude, comme si la solitude était un sexe en elle-même. J'ai envie de parler dans leur bouche, de souder ma langue à la leur et de faire scandale, agrippée à leurs épaules et à leur ventre, fertile, criant de plaisir, debout, dans l'odieux. J'ai envie de les prendre en moi pour mettre de l'espace au monde. De l'espace, vite. La stérilité touche même le temps jusqu'au tréfonds de notre histoire. Ici, nous transformons tout en Floride. À chaque siècle, l'alchimie est à l'image de l'envergure de nos désirs. Nous aurons beau frotter longtemps une bouteille de coke, aucun génie n'en sortira jamais. Nous sommes des moteurs qui fuient. Partout où il y a du soleil, nous ne savons laisser que des traces d'huile solaire. En prenant de l'âge, je voudrais prendre du goût, telle une liqueur qu'on laisse reposer. Je voudrais être un nectar pour donner à boire. Il fait si sec. Mieux, un élixir dans lequel il y aurait une part d'éternité, pour guérir la peur. Voilà que j'ai de l'ambition maintenant. En novembre, juste avant que la glace ne te saisisse, j'ai rapatrié quelques-unes de tes réflexions dans ma langue. J'espère qu'elles ne sont pas en exil. Voici ce que tu réfléchissais. Mes os se mettent en automne. Je n'aime pas refléter les arbres nus. Ils vont dans la mort chaque année pour une répétition générale. J'ai beau savoir que c'est ainsi qu'ils vivent, ça me fait frémir. Il vaut mieux que je gèle au fond. Quand j'émerge à l'air libre au printemps, j'arrive en pleine fête. Ils débordent de bourgeons, ils couvent leurs feuilles. Avec le chant déchiré des huards qui reviennent chez eux, le chant de gorge des wawarons et la chorale des grenouilles amoureuses, je ne connais rien de plus beau que le bruit d'une feuille qui se déplie au soleil dans son vert tendre. Je reflète leur son dans mon silence et leur éclat tout neuf dans mon eau. C'est toujours la première fois. Quand la glace se referme sur moi, vers la fin de novembre, je reçois un peu les rayons du soleil pendant quelque temps encore. Il couvre son feu. Il me prive de son sang jaune lentement, heure après heure, sans aucune brusquerie. Je lui en sais gré. Sa lumière ne me réchauffe plus, mais elle continue de m'éclairer à travers un filtre de plus en plus épais qui me fait sentir comme une caverne, jusqu'à la nuit complète. Il s'en va, lui aussi, dans son hiver. Il prend ses distances avec le nord et consacre presque tout son temps et sa force au sud. Mais je sais qu'il reviendra à temps. Il soigne chacun de ses points cardinaux. C'est lui qui les a donnés au monde, s'il fallait qu'il défaille. Encore une fois, il me sera très difficile de me séparer de la lune. Ses formes rondes et sa lumière ambrée me manqueront. Nous sommes dans la plus stricte intimité, elle et moi. Quand je reflète son fin croissant, j'ai l'impression que la bouche du cosmos vient boire en moi. J'aime imaginer qu'elle devient pleine d'avoir trop bu, que c'est moi qui la nourris personnellement et qu'elle recommence son cycle et redevient un croissant parce qu'elle sait que j'ai besoin de sa bouche sur mon eau, autant qu'elle a besoin de mon eau dans sa bouche. Toutes les eaux s'imaginent la même chose. Mais je vis ma part d'illusion intensément. Nous partageons l'orgueil d'être reliés. Si je savais souffrir, je crois que d'être privé de la lune me serait une souffrance. J'envie les humains qui en sont capables. Je voudrais tant connaître les beautés de la tristesse. Il me semble que la force et le réconfort peuvent provenir de la tristesse. Qu'est-ce que j'ai ? Voilà que je me laisse emporter par une vague de romantisme. Les humains disent que la violence est inévitable. Ils disent « Regardez la nature comme elle est violente. Regardez les animaux si féroces entre eux. Regardez, comment pouvons-nous être autrement ? Nous sommes ainsi faits depuis le début des temps, c'est dans notre nature. » Les animaux n'ont pas d'armes. Ils tuent à griffes nues, à serres nues, à dents nues. Ils n'ont pas su inventer d'armes aux meurtrières. Ils ne sont pas intelligents, ce sont des bêtes. Ils n'ont pas de cheptel, d'armée et d'abattoir. Ils sont sauvages. Ils tuent seulement à l'unité pour se nourrir. Ils sont aussi primitifs que ça. Si les chats domestiqués tuent encore, c'est à cause d'une inscription très ancienne qui semble indélébile, gravée dans leurs gènes au temps où ils devaient se nourrir seuls. Les humains disent « Regardez, nous sommes intelligents, nous sommes les maîtres de la nature. » Ils disent aussi « Regardez, nous sommes violents comme la nature est violente. Ce n'est pas notre faute, c'est plus fort que nous. Une bête sommeille en chacun de nous. » Ils sont embêtés. Ils mettent de côté leur supériorité affichée pour s'excuser de tuer à tout propos pour des raisons autres que la faim. Ils ne comprennent pas exactement pourquoi ils tuent. Dans la violence et parfois dans la sexualité, ils revendiquent l'égalité avec les bêtes. Seulement dans ces cas-là. Ils se réclament alors de la nature pour que leur cruauté disparaisse dans la fureur des éléments et la lutte pour la survie. Autrement, ils s'en excluent à cause du cerveau qu'ils ont et que les arbres, les renards et nous n'avons pas. Ils ne se voient jamais pire. Ils ne pourraient plus être naturels autrement. Mais si je pleure sur ça, qui le verra ? Pas même moi. Si on voulait, il y aurait pourtant amplement de quoi pleurer. J'en ai marre parfois. Leurs larmes mouillent leurs oreillers ou finissent dans des mouchoirs qui finissent dans des poubelles qui finissent dans des dépotoirs ou des incinérateurs. Leurs larmes n'ont pas d'autre destin. Elles ne servent jamais à rien. Ils ne connaissent pas la puissance de leurs sanglots. Ils devraient pleurer debout sur les places publiques sans dire un mot et laisser leurs os rejoindre la nappe phréatique. Ils finiraient peut-être par sentir le lien.
La personne qui rentrait dans une pièce, le petit bulldozer, là, tout le monde la décrirait comme ça. Là, mais il y avait une part d'elle qui était immensément blessée, qu'elle ne montrait jamais. Et ce travers masculin de ne pas reconnaître ses émotions, là, de ne pas aller là, là, de ne pas vouloir aller là, là. On est nombreux, nombreuses comme ça aussi encore. Mais elle le poussait très loin, ça. Très loin. affrontée.
Je n'arrive pas à saisir comment ils se relient, entre eux et à nous. On dirait qu'ils ont peur de faire des promesses qu'ils ne tiendront pas. Ils ne bougent pas sans garantie à vie, sans assurance. Ils ne se font pas confiance. Pourtant, à part eux, personne ne sait promettre. Quand l'arbre sort ses feuilles, à chaque année, au bon moment, quand le soleil revient du sud, à chaque année, au bon moment, ou que les huards reviennent d'exil et flottent sur mes eaux dès le premier jour de la disparition de la glace, ce n'est jamais le résultat d'une promesse. Nous ne signons aucun papier, nous ne promettons rien, nous sommes là, chacun à notre place. Pourquoi est-il si difficile pour eux de ne rien promettre et d'être là quand même ? Seulement, être là, parmi. Elle m'a expliqué aujourd'hui qu'elle avait compris quelque chose de très important. Je ne sais pas si je comprends bien ce qu'elle comprend, mais elle dit qu'elle a découvert que, derrière le masque du pouvoir, les gens qui tuent sont très souvent des adorateurs de l'ignorance. C'est pour ça qu'ils tuent fréquemment dans des écoles ou des lieux de savoir, comme les tueurs dans les écoles aux États-Unis ou le tueur de Polytechnique. Au Rwanda et ailleurs, ils rassemblent très souvent les gens dans les écoles pour les massacrer. Dans les lieux de connaissance, ils brûlent aussi les porteurs de la connaissance, livres et archives. Elle m'a raconté l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, les nombreux autodafés des nazis et de tant d'autres peuples conquérants, ainsi que toutes les archives brûlées au Kosovo. Elle dit que ce n'est pas un hasard de la guerre. Ils sont pourtant doués pour le sublime. Quand il n'y a personne, ils affirment qu'il n'y a pas âme qui vive. Quand il y a un silence au milieu de leurs mots, ils disent qu'un ange passe. Ils savent des tas de jolies phrases comme ça, mais on dirait qu'ils n'entendent pas ce qu'elles signifient vraiment. Ils parlent d'âme et d'ange et après ils continuent de pratiquer le néant. Un vrai mystère. Quatrième carnet. J'ai mal aux os. J'ai l'impression de me déplier après un long engourdissement. Je laisse mes eaux reprendre lentement possession de leurs rives et de leurs habitants. Elles se rhabituent à passer du miroir aux rides, de la nappe d'huile aux frissons de surface, jusqu'aux vagues franches. Côté vagues, je fais ce que je peux, compte tenu de ma nature fondamentalement pacifique. Si j'étais humain, je dirais génétiquement pacifique. Je me doute bien que ce sont des vaguelettes insignifiantes à côté des murs d'eau que sont les vagues de l'océan. Mais je me dois d'être cohérent avec les autres éléments. Si je ne réussissais pas à faire quelques vagues bruissantes quand le vent souffle comme un fou et que les arbres se tordent jusqu'à arracher leurs racines de terre, j'aurais l'air de ne pas participer à l'énergie collective. À bien y réfléchir, je me préoccupe peu de quoi j'ai l'air. Je me dis que l'essence, c'est de régner dans sa nature. Et ma nature me dit d'être parmi, sans trop faire de vagues. C'est l'offensive du printemps, la profusion. Je sens la montée de l'énergie comme une sorte de guerre contre le désert de l'hiver. Les végétaux ne semblent pas savoir que leur bataille annuelle est gagnée d'avance. Peut-être leur faut-il l'ignorer pour qu'ils déploient autant d'énergie vitale. Comme à l'automne, tout de suite après l'éclatement de leurs couleurs, leur bataille contre l'hiver est perdue d'avance. C'est ainsi. Rien ne se crée, rien ne se perd, se plaisent à dire les humains. Ils ne se doutent pas à quel point ils voient juste. S'ils savaient, ils pourraient dire « rien ne se perd, tout se crée », sans se tromper. Mais ils ne sont peut-être pas prêts à reconnaître autant de valeur à la vie. Plusieurs n'aiment pas la vie, c'est curieux. Ils croient encore que la mort est une disparition pure et simple. Je me demande qui a soufflé de pareilles aberrations dans leurs croyances, qui les a inscrites dans leurs gènes. Le désert et la profusion. Voilà. J'ai enfin trouvé les mots pour décrire ce territoire où j'existe et m'étale. Je savais bien que j'avais quelque chose à nommer. Chaque printemps, je me souviens avec bonheur à quel point j'adore les rivières, petites ou longues, étroites ou larges, timides ou tumultueuses, comme la noire et la sauvage, qui descendent en cascade de la montagne où je vis. À côté d'elles, nous, les lacs, avons l'eau paresseuse. Elles sont l'équivalent des ponts chez les humains, sauf qu'elles sont faites d'eau à 100% et ne tombent jamais. Elles travaillent fort, sans relâche. Elles courent d'un lac à l'autre et nous renouvellent. Nous avons besoin que les rivières nous donnent leur aval pour vivre en santé. Sans elles, nous serions de vulgaires mares stagnantes. Les humains disent « Il ne faut pas réveiller l'eau qui dort. » Mais nous, les eaux, ne dormons jamais. Où sont-ils allés pêcher ça ? Il serait plus juste de dire, surtout pour les rivières, « Il ne faut pas déranger l'eau qui se prélasse dans son lit. » Les rivières sont si éveillées et si entêtées que plusieurs d'entre elles ont fait une fugue l'autre été, à l'ombre de la Saguenay, l'impératrice du royaume. Elles ont tout emporté sur leur passage, pressées de retrouver leur ancien lit pour se reposer. Tout le monde a été pris de panique. Vous pouvez les enterrer profondément, vous pouvez les faire passer dans des tunnels, les dévier, les arrêter, essayer de les oublier, perdre la carte de leur tracé et effacer le nom de votre esprit, ça ne changera rien. Là où était une rivière, il y aura toujours une rivière. Le jour où j'ai émergé de mes glaces, mon traditionnel comité d'accueil était là. J'ai beau savoir qu'il ne manque jamais mon retour à l'eau, ça me fait toujours un aussi grand plaisir. Il y avait mon couple de huards, le même depuis des années, toujours amoureux. Puis quelques colverts et d'autres canards fugitifs qui ne font que passer, trop brièvement à mon goût. Et sur les berges, comme un beau collier vert, les grenouilles et les crapauds ont fièrement inauguré leur saison des amours, toutes fâles gonflées. Cette année, une famille de Bexy couronnée s'est jointe au comité. Une grande rareté. Le père, avec sa huppe déployée qui lui fait une tête abstraite, ouvrait le cortège. Le petit flottait au milieu et la mère fermait la file. Si elle ne voit pas son petit, elle angoisse. Il est même venu un grand Bexy en personne le troisième jour. Je ne demande jamais rien et j'ai toujours plus.
Oui, je suis allé à Saint-Sébastien beaucoup, souvent. Sur la galerie avec d'autres, la terrasse. Il nourrit les chats. Hélène nourrissait tous les chats de Saint-Sébastien. D'ailleurs, elle leur faisait, pour l'hiver, elle leur faisait une maison sur sa galerie. Et elle les nourrissait, elle qui avait à peu près rien à manger, elle nourrissait les chats.
À la fin de l'été dernier, elle a fait peindre sa maison en rose et vert. C'est du plus bel effet dans le vert éblouissant des arbres et de la pelouse. L'hiver a été difficile. Le printemps a été bousculé et l'été s'est affolé. Les boutons d'or, les marguerites et les épervières sont arrivées tout en même temps, elles qui se succèdent d'habitude en petits soleils jaunes, blancs et orangés, à quelques jours d'intervalle. Même les pissenlits sont passés en coup de vent cette année. À peine a-t-on pu apercevoir leur tapis jaune qu'ils étaient déjà en train d'éparpiller leurs parachutes. Elle m'a avoué hier qu'elle faisait lire mes réflexions à des tas de gens que je ne connais pas. Mais l'eau est un état, une série de réflexions plus qu'une langue officielle. Est-il possible qu'elle puisse comprendre plus que ce qu'elle sait ? Peut-elle vraiment traduire un état dans une simple langue, forcément réductrice ? A-t-elle ce qu'il faut ? Ça me chicote. Je n'ai aucun moyen de le vérifier. C'est facile pour moi d'absorber ce qu'elle dit et pense, mais comment fait-elle pour saisir ce que contiennent mes silences ? Et si elle faisait de la littérature ? J'ai vaguement entendu parler de ce canal secret qu'ils se sont creusés pour mieux explorer ce qu'ils ne connaissent pas, mais elle n'oserait quand même pas aller jusque-là sans me consulter. Cette histoire ne sent pas bon.
Mais vous savez, c'est quand même incroyable, cette femme qui avait un tel talent et qui, outre la maison de Saint-Zénon, elle n'avait rien du tout. Elle n'avait rien du tout. Alors donc, c'est incroyable quand même, cet état dans lequel on tient nos gens de grande valeur, nos artistes, nos écrivains, les gens qui parlent, qui prennent la parole, qui s'impliquent dans leur communauté, dans leur société. Alors, voilà. Mais quoi qu'il en soit, Hélène, même ça, elle n'en tirait pas de...
Ils sont si touchants quand ils veulent. Pour Mamadoué, elle a commencé à me collectionner des histoires d'eau. Je dois avouer que ça me fait un petit velours, comme ils disent si joliment. Elle vient me raconter tout ce qu'elle lit, voit ou entend qui se rapporte à l'eau, de près ou de loin. Nous avons les mêmes goûts. Elle a trouvé ce pont entre elle et moi. Comment oserais-je le couper ? Je me répète doucement ces petites histoires, ces petites phrases entre deux frémissements. Les castors et les loutres les adorent. J'aime transmettre. En voici une. La mer. C'est notre mer à tous, non ? Il n'y a rien que de l'eau jusqu'à l'horizon. Ça va même plus loin que tout ce qu'on voit. Je me sens propre rien qu'à la regarder. Puis une autre, que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle vient d'elle. Du haut désert, entre Gaspé et Matane, un petit lac, minuscule, en triangle, me rappelle un sexe de femme au creux de deux montagnes, comme de deux cuisses rondes. Puis, à Montjoly, j'ai beau regarder attentivement, il n'y a pas de différence entre la mer et le ciel. La côte se découpe en noir cru sur un néant bleu délavé qui n'a pas de nom en français. Je sais que c'est le Saint-Laurent. Mais si je ne l'avais pas su, j'aurais été mystifiée par cette trouble collusion entre la mer et le ciel, cette fusion, cette osmose liquéfiée qui ne ressemble à rien de connu, pas même à de l'eau. Je m'attendais presque à voir Dieu en sortir avec des rayons de soleil dans chaque main. La dernière phrase de sa collection me semble un peu résumer cette difficulté de nommer ce qu'elle a vu de ses yeux. Elle ne put trouver l'horizon. L'intime union de la mer et du ciel avait effacé la suture. J'ai failli manquer de tolérance. Après tout, si elle veut faire de la littérature sur Modo, qui suis-je pour l'en empêcher ? Je n'en souffre pas et ça doit l'aider à vivre, sinon elle ne prendrait jamais un tel risque. Les nuages se changent en ardoises, les oiseaux se taisent, les feuilles des arbres montrent leurs dessous et le vent est en train de retenir son souffle pour mieux nous emporter tout à l'heure. Un orage se prépare. Aujourd'hui, je sortirai mes vagues à crête blanche. Vous venez d'entendre un morceau des Carnets du lac de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Francine Pelletier, Marie-Hélène Falcon et Nicole Boudreau. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.